Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du 23 mai 2014, en direct de Washington. Idrissa Seydoulia et Anne Albertson, bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
À nos sommaires de cette édition,
reprise du contrôle de Kidal et de Ménaka par les rebelles Touareg au Mali.
Sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Boko Haram, responsable de meurtres et d'enlèvements au Nigeria.
Reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire entre le pouvoir et l'opposition.
Appel au calme au Malawi où la présidente sortante conteste déjà les résultats partiels de la présidentielle.
Washington déçu par le coup d'état des militaires en Thaïlande.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, consterné par la mort de 13 soldats ukrainiens dans une attaque des séparatistes pro-russes dans l'Est. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Montou et les sports. Pour l'instant, le journal. Les rebelles Touareg ont repris le contrôle des villes de Kidal et de Ménaka dans le nord du Mali. C'est ce qu'a affirmé hier un porte-parole de l'ONU. De leur côté, les autorités maliennes ont reconnu avoir perdu Kidal. Bagassi Koura.
Le gouvernement malien a déclaré un cessez-le-feu hier soir au lendemain de l'assaut sur la ville de Kidal par les forces maliennes. La perte de Kidal représente une cinglante défaite pour Bamako, qui envisage de demander un appui à la force française déployée dans la région. Mercredi, un responsable du MNLA cité par l'AFP avait affirmé qu'une coalition de trois groupes armés avait combattu les forces maliennes à Kidal, une ville tombée sous leur contrôle. Il avait ajouté que ces groupes avaient ensuite pris sans combat d'autres villes du nord abandonnées par les soldats maliens, citant Anderambukan, Ménaka, Agelok, Tessalit et Anéfis. Mais le gouvernement affirme que l'armée conserve ses positions partout, sauf à Kidal. Accusée de passivité, la France a exclu d'intervenir directement dans ce conflit. Pour Paris, il s'agit de la sécurité intérieure malienne, sans aucun lien avec les raisons de l'intervention de la France au Mali.
Par ailleurs, le Fonds monétaire international a indiqué hier avoir demandé des explications au Mali concernant l'achat d'un nouvel avion présidentiel pour 40 millions de dollars, et ce alors que le pays reste sous perfusion financière, Jean-Roger Bion.
Nous avons contacté les autorités pour leur demander plus d'informations, a déclaré Gary Rice, le porte-parole du FMI. L'institution est préoccupée par l'achat de cet avion et une garantie de 200 millions de dollars apportée par Bamako à une société privée, a-t-il ajouté. Le fonds a donc décidé de retarder le versement de son prochain prêt. Bamako avait déjà reçu deux aides d'urgence de 33 millions de dollars en 2013 et bénéficie depuis décembre d'une ligne de crédit de 46 millions. Aussi, les équipes du FMI ne se rendront pas comme prévu en juin au Mali pour mener leur audit, condition au versement d'une nouvelle tranche. L'affaire du nouvel avion du président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en août, a aussi fait des vagues au Mali, l'un des pays les plus pauvres de la planète, qui se remet difficilement d'une longue période d'instabilité. Après une relative accalmie, l'armée malienne a subi mercredi une cinglante défaite à Kidal, d'où elle a été chassée par les rebelles Touareg.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé hier des sanctions contre Boko Haram, le groupe extrémiste islamiste qui a lancé une vague d'attaques sanglantes au Nigeria et a enlevé en avril plus de 200 lycéennes. Abuja avait demandé que Boko Haram soit ajouté à la liste d'entités liées à Al-Qaïda et frappé de gel de biens, d'interdiction de voyage et d'embargo sur les armes.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, s'est félicitée de la décision du Conseil de sécurité, la qualifiant d'étape importante dans le cadre du soutien aux efforts du gouvernement du Nigeria pour défaire Boko Haram et tenir ses leaders responsables de leurs meurtres et atrocités. Hier, les enseignants sont descendus dans la rue à travers le Nigeria dans le cadre de leur grève de 24 heures pour protester contre l'enlèvement des lycéennes.
Peu après leur arrivée au Tchad, les éléments de l'armée de l'air américaine affectés à la traque des lycéennes enlevées par Boko Haram sont passés à l'action. Les précisions de Lionel Gahima.
L'équipe américaine a lancé à partir du Tchad un drone Predator qui a rejoint dans le ciel nigérian l'avion Global Hawk. Les deux appareils sont équipés de divers instruments de détection et de prise d'images. Les soldats américains effectuent plusieurs missions aériennes dans l'espoir de retrouver les traces des lycéennes et de leurs ravisseurs, explique le colonel Steve Warren, porte-parole du Pentagone. C'est une zone très étendue, un terrain difficile, une jungle densément boisée, si bien que les recherches sont difficiles. Pour le moment, les appareils américains se concentrent sur le territoire nigérian, notamment le nord-est, où seraient détenues les lycéennes de Chibok.
En Côte d'Ivoire, le pouvoir et l'opposition reprennent le dialogue politique. La libération hier de 150 prisonniers politiques de la crise post-électorale augure d'une nouvelle entente entre les deux camps. Issa Napon.
Une délégation du Front populaire ivoirien conduite par son président Pascal Affine-Guessant a rencontré hier une équipe ministérielle dirigée par Jeannot Kouadio-Aoussou, ministre en charge du dialogue politique. La libération des 150 prisonniers politiques fait partie des engagements pris par le pouvoir et dont s'est réjoui M. Affine-Guessant à l'issue de la rencontre. Un fait confirmé par le ministre Aoussou qui a parlé d'actes forts pour consolider la paix. Il a demandé en retour au FPI de lever solennellement son mot d'ordre de boycott des opérations de recensement de la population. Le patron de la principale formation politique de l'opposition a promis d'en rendre compte au comité central du parti, dont l'appel au boycott de l'enquête nationale est massivement suivi par les militants. Pour Pascal Affine-Guessant, le gouvernement marque sa volonté d'aller de l'avant, de travailler ensemble avec le FPI et les partis d'opposition afin de trouver des solutions définitives aux problèmes qui entravent la réconciliation. La Côte d'Ivoire se remet progressivement d'une décennie de crise politico-militaire dont les violences post-électorales de 2010-2011 ont constitué la fin sanglante, faisant plus de 3000 morts.
Les observateurs européens et africains appellent les Malawites au calme en attendant la proclamation des résultats des élections générales de mardi dernier. Mais avec la publication des premiers résultats partiels, la présidente sortante crie déjà à la fraude. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Le triple scrutin présidentiel, législatif et local de mardi dernier au Malawi a connu de sérieux problèmes d'organisation. Le matériel électoral n'est pas arrivé à temps, certains bureaux de vote ont ouvert avec plusieurs heures de retard, des troubles ont même été signalés et l'armée a été appelée à la rescousse. On a dû revoter le lendemain dans 13 bureaux de vote à Blantyre et Lilongwe. Cependant, Véronique de Keyser, chef de la mission des observateurs de l'Union européenne, estime qu'en dépit de nombreuses irrégularités, la commission électorale malawite a agi de manière impartiale pendant le scrutin. Les observateurs de l'Union africaine abondent dans le même sens, disant que les élections ont été menées de façon largement transparente. 12 candidats étaient en lice pour la présidentielle. Les premiers résultats publiés par les radios locales donnent l'avantage à Peter Mutharika, frère du défunt président Binguwa Mutharika. Mais la présidente sortante Joyce Banda crie à la fraude. Elle a dénoncé hier de sérieuses irrégularités et exigé un nouveau décompte des voix. Maxon Mendera, chef de la commission électorale, a rejeté cette demande et appelé tous les Malawites à attendre la publication des résultats officiels.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Thaïlande, les leaders militaires ont demandé à l'ancienne première ministre Yingluck Shinawatra et à plusieurs membres de sa famille de se présenter aujourd'hui à une installation de l'armée. Leur chef, le général Prayut Chan-o-Chan, a saisi pacifiquement le pouvoir hier, deux jours après avoir décrété la loi martiale dans le pays pour, dit-il, restaurer la paix et l'ordre public à travers la réforme politique. L'armée a également convoqué le premier ministre intérimaire qui, lui, n'était pas à la seconde réunion infructueuse de jeudi entre opposition et partisans de Yingluck Shinawatra, et à la suite de laquelle les militaires ont fait leur coup d'État.
Les États-Unis, pour leur part, se disent déçus par ce putsch, soulignant que rien ne le justifie. Dans une déclaration jeudi, le secrétaire d'État John Kerry a exprimé des préoccupations au sujet des informations selon lesquelles de hauts responsables politiques sont détenus par les militaires. Il a appelé à leur libération immédiate et au retour à la démocratie. M. Kerry a également mis en garde contre les éventuelles implications négatives pour les relations entre les États-Unis et l'armée thaïlandaise.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se dit consterné par une attaque des séparatistes pro-russes, attaque qui a tué 13 soldats gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine. Ils ont usé de mortiers, RPG et armes automatiques contre un point de contrôle de l'armée dans la région de Donetsk.
Cette attaque accroît la crainte de violence. En prélude à l'élection présidentielle de dimanche, beaucoup de gens placent des espoirs sur la consultation pour aider à résoudre la crise politique et éviter la partition du pays. Dans sa déclaration, M. Ban a exhorté toutes les parties à redoubler d'efforts pour permettre à tous les Ukrainiens d'avoir des élections libres et justes, sans crainte pour leur sécurité.
Le gouvernement déploie des dizaines de milliers de policiers pour assurer le bon déroulement du scrutin. Mais on s'attend à des difficultés dans l'Est, où les rebelles ont saisi plus de 10 villes. Pour le premier ministre intérimaire de l'Ukraine, la Russie tente d'exacerber les tensions pour perturber les élections que Moscou accepte sans beaucoup d'enthousiasme.
Le président iranien Hassan Rouhani est optimiste quant à la conclusion d'ici à juillet d'un accord global sur le programme nucléaire de son pays.
M. Rouhani a dit à la presse hier à Shanghai que c'est fort possible, mais que cela dépend aussi de pays qu'il n'a pas identifiés et qui ne devraient pas être autorisés, selon lui, à créer des problèmes. À noter que le round de la semaine dernière à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances mondiales n'avait rien donné.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a adopté une mesure pour mettre fin à la collecte massive de données téléphoniques américaines par la NSA, l'Agence de sécurité nationale.
Ce texte, USA Freedom Act, constitue la première réponse du Congrès aux révélations d'Edward Snowden, l'ancien contractuel de la NSA, révélations qui ont suscité un tollé international contre l'ampleur des programmes de surveillance américains. La mesure doit être approuvée par le Sénat avant d'être soumise au président Barack Obama pour signature.
La NSA ne pourrait plus continuer à collecter des informations sur les appels faits par les Américains et à les stocker pendant au moins 5 ans. Elle pourrait en revanche demander des données aux compagnies de téléphone pendant des enquêtes sur le terrorisme et en réaction à une ordonnance d'un tribunal.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Ici Washington, la voix de l'Amérique. En Centrafrique, beaucoup de musulmans ont fui Bangui pour aller se réfugier dans d'autres villes ou d'autres pays. Mais tous ne sont pas partis, malgré les attaques des anti-Balaka. Pour un témoignage, Idriss Fall a pu joindre Abdou Salam Al-Mouzamil, un musulman du quartier Kilomètre 5 à Bangui.
Maintenant, je suis précisément à kilomètre 5. Nous sommes dans la précarité. On est là, on ne circule pas, on ne bouge pas. On est là sur place, presque cantonné dans notre quartier. Parce qu'il y a les représailles des anti-Balaka, de part à autre. Voilà la présence vraiment de ces forces internationales. Mais ils arrivent à dire les choses. Quand tu seras vraiment hors de ton quartier, immédiatement tu seras lyncher ou tué par vraiment ces assassins qui nous entourent dans tous les coins. Même pas, on ne peut pas arriver en ville pour vraiment faire notre préoccupation, soit à la banque, soit à la commerce. Donc vraiment, on est là, resté sur place, sans travail, sans faire quoi. Voilà, on est en train de vivre ça.
On nous dit que ce sont les soldats burundais qui vous protègent.
Oui, effectivement, les soldats burundais qui sont en train de nous protéger sont là en train de travailler. Ils travaillent vraiment dans l'impartialité totale, ils travaillent normalement.
Mais comment vous faites pour vivre alors?
Maintenant, nous vivons par la grâce de Dieu, parce que vous savez vraiment, Dieu ne laisse pas mourir les oreilles du ciel, comme vous le savez. On vit par la grâce de Dieu, mais vraiment, on est fondu totalement. Notre économie, on n'arrive pas à faire notre préoccupation. Vous savez, la majorité de ceux qui vivent en kilomètre 5 sont des commerçants, sont des opérateurs économiques, il y a des transporteurs, mais vu la situation du pays, vu l'insécurité qui règne, on n'arrive à rien faire pour le moment.
Est-ce qu'il y a même une petite vie au grand marché de kilomètre 5?
Oui, il y a le marché, il y a les chrétiens, il y a les musulmans qui fréquentent, même mentalement. Oui, il y a les musulmans et les chrétiens qui fréquentent le marché. Mais nous, on ne peut pas sortir hors de notre quartier. Mais il y a des chrétiens qui viennent souvent dans notre quartier, qui font leur occupation et sortir. Mais quand nous sortons de notre quartier, automatiquement, on sera allégé.
Donc, vous êtes en train de me dire qu'au kilomètre 5, il y a des musulmans et des chrétiens qui cohabitent dans la paix jusqu'à maintenant?
Jusqu'à maintenant, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, nous cohabitons ensemble. Mais rien que nous, les musulmans, on ne peut pas sortir hors de notre précarité. On n'a pas accès à l'hôpital, on n'a pas accès à la banque, on n'a pas accès à l'éducation. On n'arrive même pas à aller entrer nos morts à la frontière. Et puis vraiment, depuis ce temps-là, donc on ne voit pas la réaction du gouvernement, ni les forces étrangères qui sont là. Il n'y a rien qui a été fait pour nous.
C'était Abdou Salam Al-Mouzamil, un musulman du quartier Kilomètre 5 à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
À l'instar du mouvement Bring Back Our Girls, soutenu par Michelle Obama et d'autres personnalités à travers le monde, la coordination des associations de femmes du Burkina a organisé hier à Ouagadougou une marche pour exiger la libération des lycéennes kidnappées par Boko Haram au Nigeria. Elles ont remis une déclaration à l'ambassadeur du Nigeria indiquant leur soutien à la lutte pour le retour sain et sauf de plus de 200 jeunes filles actuellement détenues par Boko Haram. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Malgré la chaleur caniculaire, les femmes sont sorties nombreuses pour battre le pavé et exprimer leur indignation face au kidnapping des jeunes filles par Boko Haram. On écoute Benjamin Douamba, responsable de la coordination des associations de femmes, sur l'esprit de la marche.
Si nous nous mettons ensemble, nous nous donnons la main, nous savons que ça peut porter fruit. Et nous avons foi que Boko Haram va entendre notre cri de cœur. Parce que vraiment, les femmes de Burkina Faso se joignent aux femmes du Nigeria et nous pleurons pour que nos filles soient libérées. Et nous avons foi que Boko Haram, tous ceux qui font partie de cette secte-là, vont entendre notre cri et vont libérer nos filles. Est-ce vraiment l'islam qui prône la paix, qui prône l'amour entre les humains? Est-ce de cet islam parle-t-il ou a-t-il, lui, un autre islam que nous ne connaissons pas?
Dans le lot des marcheuses, on notait en grand nombre les élèves et les étudiantes. Une d'elles, Mariam Sana, portait et bien en vue un écriteau appelant Boko Haram à libérer les jeunes lycéennes. Mariam Sana nous explique.
J'ai mis sur ma poitrine libérer les filles capturées. On veut qu'elles soient libérées, qu'elles reviennent dans leur famille saines et sauves.
On a peur que ça nous arrive aussi, mais l'essentiel est qu'on les libère.
L'élève Tatiana Koudbi, elle, lance ce message-ci aux autorités pour un peu plus d'efforts.
Si on attaque le Nigeria, c'est comme si tous les pays africains ont été attaqués et on a de quoi s'alarmer. Et moi, je prie surtout les autorités de faire quelque chose de plus. On sait qu'ils sont déjà en train de faire des efforts, oui, mais on aimerait qu'ils fassent encore plus d'efforts, que tout le monde le sente et que toute la population, que le monde entier se mette en prière. Nos grandes sœurs et petites sœurs retrouvent la paix et que leurs droits ne soient plus violentés partout dans le monde.
La ministre burkinabé de la promotion de la femme explique pour sa part sa présence par ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme. On écoute Nestorine Sangari.
Ce n'est pas en tant que ministre, c'est en tant que femme que je suis là, en tant que mère, pour vraiment dénoncer cet état de fait. Vous avez des enfants, vous avez des sœurs. Entendre que quelqu'un que vous ne connaissez pas est venu les enlever, vous ne savez pas où ils les ont amenés, qu'est-ce qu'ils en font. On ne peut pas rester là insensible et puis ne rien faire. Donc c'est pourquoi nous sommes sortis et nous espérons et nous prions Dieu qu'on puisse les retrouver toutes en bonne santé pour les remettre à leur famille.
L'ambassadeur du Nigeria au Burkina, tout en rassurant les marcheuses que les filles vont revenir saines et sauves à la maison, a promis transmettre la déclaration des femmes du Burkina aux plus hautes autorités de son pays. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Waïgouya et Fada.
Al-Shabaab se jure de porter la guerre au Kenya voisin en attaquant des cibles militaires et civiles dans ce pays. Le groupe islamiste somalien appelle aussi les communautés musulmanes du Kenya à le joindre dans ce combat. Les précisions de Michel Joseph.
Al-Shabaab a tendu une embuscade lundi à un convoi militaire dans le nord-ouest du Kenya, près de la frontière somalienne, tuant au moins 10 soldats kényans. Fouad Mohamed Khalaf, un chef militaire du groupe militant, en a parlé hier dans la ville somalienne de Bardere. Nous avons formé des jeunes du Kenya. Nous allons les envoyer dans leur pays. Ceux que nous avons envoyés lundi et qui ont tué vos soldats sont ceux qui vous avaient causé du tort. Et nous en enverrons un plus grand nombre. Un rapport de l'ONU datant de 2011 signalait déjà qu'Al-Shabaab avait recruté jusqu'à 500 jeunes Kenyans. Depuis, la police kenyane a arrêté des dizaines de recrues présumées du groupe qui étaient revenus au pays. Les enquêteurs affirment que les récentes attaques contre un bus et marché de Nairobi étaient le fait de Kenyans. Mercredi, Warge Saar, un jeune Kenyan de 18 ans, a été inculpé pour avoir planté une bombe à bord d'un autobus en début de mois.
Fouad Mohamed Khalaf a averti le gouvernement kenyan que d'autres attaques suivront. Nous leur disons, vous devriez être prêts à être kidnappés, prêts pour les hommes et les femmes kamikazes et prêts à ce qu'un grand nombre de musulmans vous livrent la guerre. Dans une interview accordée au service swahili de la VOA, Salim Bajaber, dignitaire religieux musulman et ancien maire de Mombasa, a appelé les jeunes Kenyans à ne pas suivre l'appel d'Al-Shabaab et à ne pas mettre leur vie en danger. Cette semaine, des avions kenyans ont bombardé un bastion et des centres d'entraînement d'Al-Shabaab. Les troupes kenyanes ont franchi la frontière somalienne en 2011 pour combattre ce groupe islamiste. Depuis lors, le Kenya a connu une vague d'attaques, la plus sanglante étant celle de l'année dernière contre le centre commercial Westgate de Nairobi et qui avait fait plus de 60 morts. Le mois dernier, les autorités kenyanes ont lancé une campagne contre les terroristes, leurs sympathisants et les immigrants illégaux. Les groupes de défense des droits humains se sont plaints de l'opération qui visait les immigrants somaliens du quartier Isli de Nairobi.
Et maintenant les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, le Ghana est capable d'aller jusqu'en demi-finale. Parole de joueur.
Oui, le milieu de terrain ghanéen Michael Essien estime que les Black Stars sont capables d'aller jusqu'en demi-finale du Mondial 2014, même si le tirage au sort ne les a pas gâtés. C'est sans doute la meilleure équipe du Ghana jamais rassemblée. Le banc est extrêmement profond, notamment au milieu. Nous avons beaucoup d'options à tous les postes, ce qui est toujours un plus, a déclaré Michael Essien à FIFA.com. Le Ghana est dans le groupe G, celui de la mort, en compagnie de l'Allemagne, du Portugal et des États-Unis.
La statue de Pelé ne veillera finalement pas sur le Maracana pendant la Coupe du Monde.
Cette statue avait été commandée au sculpteur et caricaturiste brésilien Ike à partir de photos de célébration d'un but au Mondial 1970. Le projet a été politiquement abandonné. C'est un manque de respect pour moi et pour Pelé, a déploré Ike. Selon l'artiste, il est maintenant trop tard pour installer la statue d'ici au Mondial qui débutera le 12 juin. C'est dans l'ancien Maracana que Pelé avait marqué son 1000e but le 19 novembre 1969. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, Pelé a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil en 1958, en 1962 et en 1970 et a inscrit 1281 buts. Dans toute sa carrière, il est né le 23 octobre 1940 dans une famille pauvre.
Le Français d'origine congolaise, Claude Makélélé, nouvel entraîneur de Bastia.
Oui, c'est ce que nous apprend l'AFP au sujet de l'ancien international français qui est actuellement entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain. Selon son entourage, il s'apprête à signer un contrat de 2 ans avec le Sporting Club de Bastia. Et puis enfin, Idrissa, finale régionale de la NBA en basketball.
C'était journée de repos hier pour les 4 équipes participant aux finales des conférences Est et Ouest. Le duel reprendra samedi pour le 3e match de la série de 7 entre Miami et Indiana, qui sont à égalité 1-1. Et les Spurs de San Antonio, qui mènent par 2, retrouveront les Thunders d'Oklahoma City dimanche pour leur 3e match.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Place maintenant à Roger Muntu et à sa musique. Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour les amis.
Alors, nous écoutons quel artiste ce matin?
Ce matin, Idrissa, que de la bonne musique rock qui nous rappellera un peu des années 80. Écoutons Pat D'Annunzio dans Blood and Roses.
It was long ago, seemed like yesterday. Saw you standing in the rain. Then I heard you say, I'm
Il était dans quel groupe, lui, Roger?
Bepat était membre du Smithereens, qui était un groupe américain du power pop des années 1980, populaire dans les milieux universitaires, oui, mais ils ne réussirent jamais vraiment à gagner un public plus large. Et lorsque la mode musicale changea avec l'arrivée du grunge, qui est un genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années 1980, la chute alors des ventes d'albums et le manque d'intérêt général signala la fin du groupe.
Roger, décris-nous un peu leur style de rock.
Les Smithereens jouaient un rock mélodique inspiré de groupes anglais du début des années 1960. Les guitares sont omniprésentes et les chansons sont facilement mémorisables grâce au talent de Pat D'Inizio, le chanteur et aussi principal compositeur.
Merci Roger.
Bonne journée à toi Idrissa ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Arnold Burson nous a rejoint en studio pour le rappel des titres.
Reprise du contrôle de Kidal et de Ménaka par les rebelles Touareg au Mali. Sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Boko Haram, responsable de meurtres et d'enlèvements au Nigeria. Reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire entre le pouvoir et l'opposition. Appel au calme au Malawi, où la présidente sortante conteste déjà les résultats partiels de la présidentielle. Washington, déçu par le coup d'État des militaires en Thaïlande. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit consterné par la mort de 13 soldats ukrainiens dans une attaque séparatiste pro-russe dans l'Est, alors que les élections en Ukraine doivent avoir lieu dimanche.
Merci Anne pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.